Bon, il y a plusieurs facettes là, qu'on peut regarder à quelques jours, quelques heures de possibles inondations. Honnêtement, ce matin, je disais, c'est pas vraiment si, mais ça va être quand puis quelle ampleur. Il y a toute la question maintenant des assurances. On se rappellera qu'on a discuté de ça en 2017 à l'effet que, act of God, une rivière qui débordait, ben c'était pas assurable cette affaire-là. Fait que c'était pas assurable, donc le gouvernement avait un programme pour compenser des situations où il n'y avait pas vraiment d'assurance privée qui était dans le domaine. Depuis, mais je me souviens, lorsqu'on parlait de cela en 2017, je me faisais dire, ouais, mais vous savez, ça s'en vient, puis il y a déjà quelques compagnies qui l'offrent, cette couverture d'assurance pour les inondations, un peu l'équivalent des refoulements d'égouts, on l'offre déjà, moyennant, évidemment, il faut que tu aies un clapet, etc., etc. 2 ans plus tard, où en sommes-nous dans la situation? Dans le fond, la question que je pose, c'est les gens là, qui risquent de se faire inonder là, parce qu'il y a une rivière qui déborde. Est-ce que ces gens-là sont assurés ou pouvaient être assurés? Quel est l'état de la situation? Et pour en parler, je vais aller rejoindre le directeur des communications au Bureau des assurances du Canada, Pierre Babinski, est avec moi. Bonjour, Monsieur Babinski.
Bonjour, M. Chalet.
Bon, malheureusement, on se reparle d'inondation. On aurait bien aimé passer notre tour, mais malheureusement aussi, ça risque d'arriver. Où en sommes-nous dans le domaine des assurances pour l'assurance inondation?
Bien, comme vous le mentionniez, depuis mars 2017, donc quelques semaines avant les inondations là, du printemps 2017, certains assureurs avaient commencé à offrir le produit, donc sous forme d'un avenant qui protégeait contre le débordement des cours d'eau. Donc, depuis ce temps-là, l'offre a évolué. C'est quand un nouveau produit arrive sur le marché. Ça prend quand même quelques années pour certains assureurs de décider d'aller dans ce marché-là. Ceux qui ont commencé à l'offrir revoient l'évaluation du risque selon les événements. Donc, il y a encore plusieurs assureurs qui offrent le produit. C'est certain que c'est pas un produit qui va être offert à tout le monde. Si on est dans une zone inondable, si on est inondé à chaque année, c'est plus un risque d'un événement soudain et accidentel, c'est devenu une certitude. Puis l'assurance, c'est pas un contrat de service là, pour nettoyer votre sous-sol à chaque année. C'est un produit qui vous protège contre des événements pour lesquels vous êtes à risque, mais où c'est pas une certitude.
OK. Donc, par exemple, les gens sur la rue fer à cheval pour ici qui sont inondés, ils ont été inondés en 2017, mais ça faisait 50 ans qu'ils ne l'avaient pas été. Les gens à Pointe-Gatineau, dans le secteur Elmer, il y a probablement tout ce qu'on discute aujourd'hui, c'est des produits qui ne sont pas offerts à ces gens-là.
Ça va dépendre encore une fois, les assureurs ont des moyens à travers une cartographie, à travers des fournisseurs de données, d'établir c'est quoi le risque pour chaque résidence. Donc, si vous êtes dans une zone, par exemple, de récurrence de 20 ans, là, vous êtes probablement dans une catégorie où la plupart des assureurs n'offriraient pas le produit ou s'ils l'offraient, la prime, étant donné le risque très élevé, serait exorbitante.
D'accord. Pour les gens qui sont assurables maintenant, puis comment ça fonctionne? S'il y a des gens qui nous écoutent qui sont assurables, premièrement, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de contracter une assurance? Première question, en fonction de la fin de semaine.
Honnêtement, j'en doute fortement. Mais encore là, ça dépend. Ça dépend de si quelqu'un appelle puis il est pas sur le bord de l'eau, l'assureur juge que c'est un risque, oui, mais un risque raisonnable. Il fait une proposition avec une prime pour l'avenant et le client l'accepte. Il pourrait en principe le faire. Mais si quelqu'un est sur le bord de l'eau, il voit l'eau s'approcher, c'est pas le temps d'appeler l'assureur.
Okay. Quand on s'assure, est-ce qu'il y a un délai de carence?
Une fois que la proposition est acceptée, généralement, c'est en vigueur immédiatement.
D'accord.
S'il y a un délai, ça va être mentionné, mais ça serait plutôt exceptionnel.
OK. Donc, la police est maintenant disponible. Prenons l'hypothèse que quelqu'un a déjà cette police-là. Là, qu'est-ce qu'ils doivent faire, là? Parce que là, l'eau risque de monter. C'est des gens qui sont assurés avec l'avenant. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils doivent savoir?
Bien, en fait, généralement au Québec, les avenants qui nous protège des inondations, donc des débordements de cours d'eau. Il y a généralement une limite, un montant de couverture limite. Ça peut être 10 000 $, ça peut être 20, ça peut être 50 000 $. Ça dépend de ce qui aurait été discuté avec l'assureur. Donc, si jamais vous avez, par exemple, un avenant qui vous protège pour 30 000 $ de dommages, si vous avez 20 000 $ de dommages, bien, votre assureur va couvrir en entier les dommages. Vous n'aurez pas à, par exemple, faire une demande d'aide du gouvernement. L'assureur s'occupe de votre situation à 100 %. Si jamais les dommages excèdent le montant de votre couverture, à ce moment-là, le programme gouvernemental permet de faire une demande d'aide financière pour combler, si on veut, ce qui ne serait pas couvert par les assurances, mais en autant que, malgré une situation comme ça, les règles du programme s'appliquent, c'est-à-dire que le programme, lui, couvre les pièces essentielles, les biens essentiels, c'est une aide de dernier recours, c'est pas comme une assurance qui vous paye en valeur à neuf pour tous vos biens. Là, il y a des modalités au programme, puis ça, c'est le ministère, les agents du ministère qui sont en mesure d'expliquer ça aux gens.
Est-ce que, si on est assuré pour les inondations, est-ce que les dépenses que l'on encourt pour prévenir les inondations, c'est remboursable si jamais il n'y a pas de réclamation d'inondation? Si, mettons, là, je fais beaucoup de travail, je loue des pompes, je fais toutes sortes d'affaires, puis j'évite une inondation, est-ce que vous allez me rembourser mes dépenses en lien avec tous les efforts de prévention?
Non, le contrat d'assurance, généralement, ne couvrira pas ce genre de choses-là. Par contre, le programme du ministère de la Sécurité publique offre certaines indemnités à ce niveau-là. Il faudrait à ce moment-là voir les détails du programme, mais pour les travaux de préventifs, si on veut, je suggérerais aux citoyens de se tourner vers le ministère pour en savoir plus sur leur programme là-dessus.
OK. Je comprenais. Là, je sais que le programme vient d'être mis à jour, vient de changer, mais je comprenais que le gouvernement du Québec remboursait, compensait, donc, pour des dommages liés aux inondations ou dans le cas de sinistres qui ne sont pas assurables. Le fait que maintenant les assurances soient disponibles, pas pour tout le monde, mais pour une résidence en particulier, disons que sur cette rue-là, l'assurance était disponible, le fait que quelqu'un n'ait pas contracté l'assurance, est-ce que ça vient le rendre, donc, pas éligible à l'assurance, mais en même temps pas éligible à l'aide gouvernementale parce que c'était un sinistre assurable, mais il a décidé de prendre la chance puis de ne pas acheter cette assurance-là? Est-ce que, dans le fond, il se ramasse entre deux chaises, ce citoyen-là?
Non, à l'heure actuelle, le programme du gouvernement, le programme général d'aide en cas de sinistre réel ou imminent, va s'appliquer là par décret. Là, c'est un décret ministériel qui va rendre une région éligible, disons, après un sinistre. Mais le programme, de façon générale, effectivement, va dire que ça s'applique généralement à des risques pour lesquels il n'y a pas d'assurance disponible ou pour lequel il n'y a pas une assurance qui est largement souscrite. Donc, quand on regarde ça, l'assurance inondation, c'est quand même nouveau sur le marché. C'est pas encore disponible à tout le monde, etc. Donc, le taux de souscription est en bas, si on veut, des limites que le ministère se donne pour considérer que c'est largement souscrit. Le programme, puis les modifications au programme du ministère, c'est-à-dire le chapitre 7 qui a été ajouté pour traiter plus spécifiquement de l'inondation, tient compte du fait que certaines personnes vont avoir une certaine couverture d'assurance. Okay. Je vous donne un exemple, oui. Le refoulement d'égouts. C'est largement disponible. À peu près n'importe qui peut avoir peut avoir un avenant pour le protéger des refoulements d'égouts.
Oui.
Et donc, s'il y avait des pluies diluviennes, puis tout ce qu'il y a, c'est des refoulements d'égouts, il n'y a pas d'inondation, mais tout le monde a des refoulements d'égouts, ben, le ministère ne le ferait pas, embarquerait pas avec son programme parce que les assureurs offrent ce produit-là. Vous vous souvenez des tornades, de septembre dernier. Le programme du ministère ne s'est pas appliqué parce que les vents violents et les tornades sont couverts par la police d'assurance de base. Donc, il y a eu un don du gouvernement à la Croix-Rouge, mais pas d'activation du programme.
Ouais. On n'a pas pris à poche gauche, on a pris à poche droite. On va payer pareil. On a, dans le fond, encouragé les gens à ne pas avoir d'assurance à la maison. T'sais. Je comprends là, qu'on était dans la dèche, là, mais c'était ça aussi. Là, le fait que le programme ne s'applique pas, mais on va payer pareil.
Bien, écoutez, dans ce cas-ci, les montants qui ont été donnés par le gouvernement sont probablement de beaucoup inférieurs à ce que ça aurait coûté si le programme s'était activé. Mais c'est un dossier pour une autre discussion.
Oui, oui, bien sûr. Oui, on va revenir. On va revenir, je veux, parce que vous avez abordé la question du refoulement d'égout, ça m'intéresse. En fait, il y a deux grands sujets aussi que je veux traiter, l'histoire des refoulements d'égout. Si j'ai un refoulement d'égout dans ma maison, puis que la cause, c'est les inondations, est-ce que je suis assuré si j'avais l'avenant refoulement d'égout?
Bon, la façon que ça fonctionne pour qu'un assureur distingue entre un refoulement d'égout et l'inondation, c'est est-ce que l'eau du cours d'eau qui a débordé se rend jusqu'au terrain des lieux assurés. Donc, si vous avez un refoulement d'égout chez vous, peu importe la cause, si tout ce que vous avez, c'est le refoulement d'égout et que l'eau du cours d'eau ne s'est pas rendue jusqu'à votre terrain, l'assureur va considérer ça comme un refoulement d'égout. Donc, si vous avez l'avenant refoulement d'égout, vous allez être couvert. Si vous avez d'abord un refoulement d'égout, là, ce matin, vous avez un refoulement d'égout et cet après-midi, l'eau du cours d'eau se rend jusqu'à votre terrain, bien là, c'est considéré une inondation et c'est ceux qui ont l'avenant inondation à ce moment-là qui vont être couverts. Si l'eau se rend jusque chez vous, ça cause des refoulements d'égout. Vous aviez l'avenant refoulement d'égout, mais pas celui du débordement des cours d'eau.
Oui.
À ce moment-là, vous ne serez pas couvert cet incident-là.
Ouais.
C'est à ce moment-là, le programme du ministère s'appliquerait
parce qu'on
n'est plus en situation de refoulement d'égout.
Je comprends bien. C'est très clair. Je veux vous parler des voitures. Si ma roulotte, mon 4x4, peu importe, si on a des dommages à mon véhicule, il est stationné dans mon entrée, chez moi, puis il y a une inondation, puis il y a de l'eau qui rentre dans l'auto, est-ce que quelle assurance entre en ligne de compte?
C'est l'assurance de la voiture. Donc, en autant qu'on est assuré pour ses propres dommages. Donc, si une voiture est assurée puis qu'on a pris la protection, soit tout risque ou accident sans collision ou des risques spécifiés, ça va être couvert par l'assurance auto.
OK.
Ça, il n'y a pas de... Ça, c'est pour toutes les voitures. Là, on n'a pas... Si on a l'assurance tout risque et tout ça, l'inondation ou les dommages par l'eau au véhicule sont couverts. C'est pas comme l'assurance habitation où ça prend spécifiquement un avenant.
OK. Là, je veux comprendre quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, là, je pense, qui ont de l'eau dans le sous-sol. Mettons sur la rue Fer à Cheval. Bon, c'est une rue qui risque d'être... Quand on a fait de l'enrochement, tout ça. Je veux juste comprendre quelque chose. Le fait que je laisse ma voiture dans l'entrée de garage, puis je laisse l'eau arriver, alors que j'aurais pu la déplacer puis l'amener bien ailleurs, le fait que je n'ai pas fait ça, puis je laisse le véhicule dans mon entrée, puis là, il y a des dommages, ça se peut-tu que mon assurance me dise, écoute, là, tu aurais bien peu à bouger, tu le savais que ça s'en venait, puis qu'il décide de ne pas me couvrir?
Bien, généralement, les situations où un assureur pourrait refuser de couvrir, C'est lorsque les dommages sont causés dans le cadre d'un acte criminel ou si les dommages sont causés volontairement au bien. Donc, si on met le feu à sa résidence, l'assureur va refuser de payer. Si on endommage volontairement son véhicule, l'assureur va refuser de payer. Dans un cas comme ça, c'est pas le propriétaire qui cause les dommages au véhicule, donc c'est une situation où s'il y a un doute, le bénéfice du doute serait fort probablement accordé à l'assuré. L'assureur sera en droit de se poser des questions, surtout si c'est une augmentation très graduelle de l'eau.
Ouais.
Mais c'est pas noir et blanc une situation comme ça. Donc, puis je veux pas qu'on donne d'idées à personne, mais
ouais. Vous comprenez où je m'en vais. Hein?
Faut user son bon jugement dans tout ça. Mais si c'est le cas, ben moi, je faudrait pas être surpris que l'assureur pose des questions.
Oui, parce que moi, je me semble que là, c'est assez évident. On risque une inondation. Si tu fais par exprès pour laisser ton véhicule, peut-être que c'est parce que tu as avantage à avoir une petite assurance dessus. Je voulais juste m'assurer que... Ou je voulais voir comment l'assureur t'a pour traiter ça. Considérant, c'est vrai que c'est pas moi qui crée le dommage, mais je laisse ma voiture exposée à des dommages imminents.
Encore une fois, c'est l'assureur qui va prendre fait de la situation, okay, puis qui ira dans la direction qu'il juge appropriée. Mais en principe, s'il n'y a rien dans la police, si le véhicule est laissé là, parce qu'il y a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles le véhicule est resté là. La personne n'était pas présente ou etc. Donc, ouais. C'est pas, comme je dis, noir sur blanc. Mais en principe, il n'y a rien qui ferait que l'assureur peut tout simplement décider de ne pas payer. Là. Il devrait vraiment prouver une négligence ou en tout cas une intention.
Dernière chose, quelqu'un qui vivrait un sinistre aujourd'hui, là, de toute façon, vous leur suggérez d'appeler leur assurance?
Tout à fait. Surtout si on est sur le bord de l'eau, généralement, je pense qu'on va être au courant si on a l'avenant inondation ou pas. Des fois, on est un peu plus loin du cours d'eau. Et c'est si, par exemple, on avait l'avenant refoulement d'égout, bien, certains assureurs pourraient avoir ajouté l'avenant inondation, puis on s'en souvient pas ou on n'a pas lu le contrat et on s'en est pas rendu compte. Donc, puis en même temps, ben eux vont vous donner, ils sont en mesure de vous donner des conseils sur quoi faire si c'est arrivé.
Merci beaucoup de ces précisions en ce temps un peu trouble pour nous. Merci de ces précisions, M. Babinski.
Ça me fait plaisir. Bon courage à vos auditeurs.
Merci. Au revoir. Alors, Pierre Babinski, il est le directeur des communications au Bureau des assurances du Canada.